Je voudrais te parler de la beauté du silence. Le silence comme état et non comme fuite de bruit. Certes, tu peux colmater tes oreilles, fuir sur la montagne, t'enfermer au sous-sol ou dans une chambre forte, sans pour autant te libérer du jacasseur. Le chien qui hurle, le train qui siffle, l'enfant qui crie à fendre l'air sont de bien petits bruits à côté des rugissements de l'ego sournois. Fou de rage, s'il n'occupe pas le premier plan, il profitera de tout, de ton silence surtout. Pour te distraire de façon radicale, il te ramènera dans le passé afin de te rendre insatisfaite, mécontente ou fautive. L'argument de la peur au premier plan, il te fera anticiper les pires scénarios possibles en raison de tes faiblesses passées, qu'il projettera en gros plan sur l'écran de la culpabilité. Te comparant aux autres, il te laissera savoir que tu es incapable, maladroite, impuissante, et que le mieux à faire, c'est de te taire. À l'opposé, il te convaincra que tu es la seule à posséder la vérité et que tu dois faire taire l'autre de façon définitive. Par tous les moyens, il t'arrachera au présent et te déchirera entre ses opposés. Assiégé par autant d'assauts prolongés, leurré par tant de ruses et de duperies, dis-moi, où pourras-tu trouver le silence? Maintenant, à cette heure présente, écoute-moi. En observateur attentif, saisis le sens de ma parole. Je te le certifie, ce silence, immobile et paisible, tu le trouveras en moi, en ce lieu sacré, jamais fréquenté par l'ego, et où je t'offre résidence. Cette auguste tranquillité te rendra invincible. Elle t'offrira un espace où non seulement tu peux regarder le passé et le futur comme d'inexistantes saisons, mais où tu peux savourer le présent dans une béatitude et un contentement insoupçonné. Un présent sans espace et sans temps. Un présent dépourvu de toute souffrance, de toute culpabilité, de toute comparaison et de toute lutte. Un présent sanctifié où tu te déposes définitivement en moi, en toute tranquillité parce que devenu moi. Cette mutation t'appartient dans la mesure de ton consentement. Un seul oui chuchoté à mon oreille et je t'accompagnerai du commencement jusqu'à la fin. Je te le redis, donne-moi un centime, je t'en rendrai un million. Une minute, une seule minute par jour, une fois encore. Est-ce trop sollicité? Si tu touches ce silence un seul instant, tu ne pourras plus t'en priver. Aucun honneur, aucune richesse, aucune splendeur en ton monde n'auront plus jamais raison de toi. Pas à pas, marche par marche, dimension par dimension, tu sentiras les fardeaux qui se pulvérisent, le temps qui s'émiette, le rythme s'accélérer. Tous les détachements qui t'ont tellement privé dans l'espace et le temps te seront devenus des manifestations de délivrance. Fini la guerre, fini la haine, fini la peur, fini la souffrance et la mort. Entends le bien. Je te convie en mon inestimable silence, lieu intangible de ta véritable naissance.
Il y avait un homme au début de la soixantaine qui, malgré une longue distance à parcourir, se rendait toujours à son travail à pied. Un homme peu bavard, serein, observateur. Architecte paysager, il dessinait avec minutie des plans de jardins décoratifs pour les villes environnantes. Avec l'arrivée d'un nouveau patron dans cette industrie, il y eut des conflits au sein du personnel. Débordé par la situation, le nouveau directeur se sentait dépassé par les circonstances. Confiant en cet architecte discret et pondéré, il vint lui demander conseil. Le vieil homme suggéra un processus simple. Convoquez d'abord chaque employé un à un. Invitez-le à fermer la porte derrière lui, à s'asseoir. Offrez-lui un breuvage et soulignez votre confiance en son expérience. Soyez prêt à écouter attentivement les récriminations de ce dernier et prenez en note. Demandez à votre interlocuteur les solutions qu'il propose et fixez un délai précis à la résolution du problème. Dressez ensuite une liste complète des plaintes et des solutions. en Assemblée générale, exposer la vérité de la situation. Apportez ensuite votre propre conclusion en tant que directeur. C'est vous qui devriez être le patron. Votre pensée est tellement claire. Qui vous a appris ce processus? C'est le procédé que j'ai ourdi pour moi-même, répondit l'homme sage, avec un sourire qui parlait de lui-même. Et saluant poliment son patron, il se remit à la tâche. La légende dit que le personnel trouva rapidement satisfaction en la proposition d'unité. Une saine concertation permit d'accroître le rendement de l'industrie. Le patron satisfait profita de ces résultats positifs pour offrir une hausse de salaire inattendue.
Aujourd'hui, je t'expose une partie du sens que recouvre cette légende. Être maître de toi-même, patron de ta vie et de tes choix, est la plus laborieuse et la plus noble des entreprises. Elle suppose non seulement que tu ne sois pas conduite au hasard des événements, mais que tu prennes tout le temps nécessaire pour considérer avec minutie chacun des aspects de ta vie. Ton nom, ton âge, la couleur de ta peau, le pays dont tu es originaire, ton statut social, tes diplômes accumulés, tes richesses, la qualité des vêtements que tu portes, ta réputation, ton titre d'emploi, le nombre de tes enfants, de tes amis, le fait que tu sois homosexuel ou hétérosexuel, parent ou pas, allonge la liste autant qu'il t'est possible. Tout cela n'est d'aucune importance en soi. Ces éléments ne servent qu'à te différencier, c'est-à-dire à te maintenir dans le monde de la séparation et de la dualité. Pourtant, il n'y a aucun hasard en ces éléments. Ils peuvent te servir d'instrument de compréhension au sujet de la structure pathologique et morbide de ton monde. Désormais, considère toutes ces caractéristiques uniquement comme des occasions de déchiffrer la particularité mensongère patronnée par l'ego. Comprends bien, il n'y a jamais de conflit sans différence. Dès la naissance, l'enfant, garçon ou fille, prématuré ou à terme, gras ou maigrelet, beau ou laid, de peau noire ou blanche, suscite des commentaires plaisants ou déplaisants. Pauvre petit, le délire commence à son insu. Quel parcours te dois-tu désormais d'entreprendre si tu veux sortir de cet abri blindé et crasseux où t'enferme le monstre narcissique et égoïste de ton individualité? Je soupçonne sur l'heure le choc que vient de te causer ma parole. Pourtant, si tu pouvais uniquement entrevoir un millième de la beauté du processus que je m'apprête à te proposer, tu serais délivré d'un fardeau tellement lourd que tes ailes te porteraient bien au-delà de tout ce que peuvent te proposer les mots. Je t'ai laissé mûrir depuis quelque temps. Si tu es maintenant prête, allons-y pour la plénière. Reprenons du début, afin de mieux gravir les échelons nécessaires au progrès de notre entreprise, cet audacieux et risqué parcours te proposant l'unité. D'abord, dis-toi sans en douter que je t'offre un séjour dans un lieu où ne règne que la paix, la joie, le repos, la vérité, et sans l'ombre d'une limite, un pouvoir créateur et un amour sans frontières et sans obstacles. Es-tu consentante d'y venir? Supposons que ta réponse est oui. Alors, établis en cette contrée lumineuse et paisible, dans un temps hors du temps et de l'espace, libre de toute comparaison, immergé dans le sens origine où repose ton unique origine, dis-moi à quoi peut te servir ton nom. Quel âge peux-tu donc bien avoir? Tes diplômes et ton statut social, la couleur de ta peau, toutes ces réalités totalement inexistantes en mon monde, en quoi pourraient-elles bien contribuer à consolider l'état de paix en lequel tu reposes? Autrement dit, en quoi un sou fait-il admirablement bien poli, lustré, ciré, ferait-il changer de continent un homme riche à milliards? Quel type de différenciation pourrais-tu bien chercher si tu reposes en un océan d'amour, libre de toute frontière, de toute souffrance, de toute comparaison? Supposons qu'à ma proposition, ta réponse est non. Dès que j'entends cette réponse, je peux deviner aisément ton malaise. J'ose tout te demander en échange d'une réalité qui te semble imaginaire, hors du réel, invisible à tes sens, inaccessible et introuvable en ton monde. Pourtant, tu n'as jamais vu le vent que par ses effets, et les organes de ton corps que par le biais d'imagerie médicale ou autre. Le chirurgien, oui, toi, jamais. Et si j'étais le chirurgien qui corrige, et qui, à ta demande, intervient pour te rendre une vision irrévocable? Si j'étais celui qui peut te rendre accessible l'insaisissable vérité? Et si j'étais l'invisible zéphyr qui délivre ton esprit de l'antinomie radicale entre ton monde et le mien? Si tu dis oui, je t'accompagnerai à l'instant près. Si tu dis non, je t'attendrai patiemment tout au long de ton parcours de triste misère. Alors, tu me reconnaîtras. Parlons à nouveau du silence, veux-tu? C'est un joyau diamantaire qu'il faut observer à la loupe, car, comme pour un bon joaillier, il importe d'en distinguer toutes les facettes pour en reconnaître la valeur. Le faux silence brûle le cœur. Il cache soit un ressentiment masqué volontairement, ou une colère involontairement dissimulée. Des habitudes vieilles comme ton monde, terriblement dangereuses parce qu'elles contiennent une forme de dynamite endormie, sournoise et soustraite à la conscience vive. Se taire aujourd'hui pour mieux mordre demain. Silence faux, apparu dès l'enfance, car souvent l'expression des différences et des émotions sont vouées à la répression, à la punition et parfois à la récompense. Ses bénéfices pour ou contre engendrent des mécanismes enfouis qui, lorsqu'ils s'éveillent, peuvent donner lieu aux actes les plus barbares et les plus inattendus. Ces gestes, que tu dis répréhensibles, ne suscitent en réalité qu'un résultat conforme à l'ordre des choses. Ils détruisent et celui qui réagit de façon volcanique et celui qui subit l'éruption de la rage. Ils t'informent de manière flagrante que ton monde en est un voué à la destruction parce que prisonnier de la dualité. Particularité, spécificité, différenciation, voilà des caractéristiques qui intoxiquent et affectent ton monde en sa totalité. Prends du temps, observe tes pensées, tes actions, tes valeurs, toutes les différences concernant ta taille, ton âge, ton instruction, ta richesse, ton pays, la couleur de ta peau et vas-y. Toutes ces caractéristiques, supposément glorieuses, déifient ton ego. Elles nourrissent, à la manière d'un virus, une sorte de maladie existentielle qui te rend apparemment unique et toutefois entièrement séparé. La singularité, la particularité, l'originalité sont applaudies et favorisées en ton monde, alors qu'elles séparent et engendrent nécessairement comparaisons, guerres et ennemis. Cela ne suppose en rien que tu y portes pour autant un jugement de dédain. Comment peut-on juger une hallucination ? Comprends plutôt que ce rêve n'est qu'une perception inexistante et fondée sur rien. Connaître, c'est s'éveiller. Et s'éveiller, c'est dénouer le mensonge qui te ligote en attendant le traversier. Alors, utilise ce temps pour dénouer le temps. Le vrai silence, celui qui progressivement fait sa demeure en toi, indépendamment du tapage qui t'entoure, te conduit pas à pas vers l'unité. En cet espace où agit l'esprit divin en toi, tu vois ton frère comme cette part de toi, ton frère qui, par tous les moyens, conscients ou inconscients, cherche exactement ce que tu poursuis toi-même. Disons, pour caricaturer, ta main qui enquête sur ton pied dans le but de poursuivre un même achèvement, celui du corps tout entier, le corps de l'unité. Cette unité rassemble, regroupe, associe, indépendamment de tout va-et-vient extérieur. Elle tisse d'inséparables liens là où il n'y a plus de toi ou de moi. Elle enfante la paix, la joie. Elle propose toujours un partage équitable, impossible à l'échelle de ton monde de rêve, à moins que tu n'aies compris que le seul lieu d'unité se retrouve en la fusion de vos esprits en l'Esprit Saint qui souffle sur le monde. Et si ce silence était le lieu de gestation par excellence? Pas un silence qui t'oblige à te taire, un silence si fin, si attentif, si vigilant et si vide à la fois, que tu puisses enfin voir s'écrouler pierre par pierre la forteresse égotique qui masque le réel. Alors tu pourras souscrire à l'engagement définitif et t'avancer sur le pont du non-retour. Ah, les mots, comme ils sont étroits et rétrécissants.
Il y avait un jour un petit garçon qui lançait des billes dans une cavité creuse de la plage. Il jouait quelques minutes, se fatiguait, lançait du sable dans toutes les directions, se roulait sur la dune brûlante, reprenait ses billes et jouait à nouveau. « Tu t'ennuies ?» lui demanda un vieil homme qui le surveillait depuis un bon moment. « C'est monotone jouer tout seul, » répondit le bambin avec un air indolent. « Tu veux que je m'amuse avec toi ? Cela pourrait être intéressant, mais tu devras m'enseigner. » L'enfant bondit de joie et se mit à expliquer, sur le champ, les différentes stratégies du jeu. Il divisa en parts égales les billes qu'il possédait, fit choisir son partenaire et lui proposa de lancer le premier. Pour les deux équipiers, la plage était devenue une salle de récréation où le temps n'avait plus sa raison d'être. Quand il gagnait, l'enfant se roulait par terre et rigolait comme un petit fou. Le vieil homme, à son tour, faisait des pitreries dignes d'un clown. Soudain, l'enfant regarda sa montre. Il annonça qu'il devait partir, car sa mère était sûrement de retour de son travail. « Si vous revenez demain, nous pourrons jouer à nouveau, » supplia-t-il. « J'y serai sans faute, si tu me dis à quelle heure. » Le jour suivant, à l'heure convenue, le vieil homme se présenta avec un livre ayant pour titre « Le jeune huard et le vieil ours des bois ».« Tu viens jouer ?» cria l'enfant l'ayant aperçu à distance. « Moitié jeu, moitié lecture », affirma le vieil homme. « Ah, la lecture, je n'aime pas », grommela l'enfant boudeur. Mais voyant qu'il ne gagnerait pas son point, il finit par céder en se mordillant la lèvre. « À chacun sa forme de joie », murmura le vieil homme fier de son gain. Une semaine plus tard, c'est l'enfant qui proposa qu'on fasse d'abord la lecture et que, s'il reste du temps, les jeux pourraient être agréables. Et la légende dit que l'enfant puisa dans la sagesse du vieillard et que ce dernier puisa à même la fraîcheur de l'enfant. Et pour une fois, la légende ajoutait, que Dame Rumeur affirmait les avoir vus ensemble au sommet de l'Everest.
Comprends-tu la simplicité et la profondeur de cette fable ? Elle illustre une vérité qui couve au fond de toi, en attente de ton éveil. Deux en un, au centre de toi. L'immature, à l'humeur variable, tantôt solitaire, tantôt jovial, mais toujours ignorant des vastes et nobles desseins qui lui sont réservés. Il s'ennuie sur les plages du monde. Il cherche des petits plaisirs qui lui procurent quelques joies bien temporaires et le plus souvent de pénibles déceptions. De jour et de nuit, il poursuit chimères et invisibles papillons. Il s'ennuie, le pauvre. De quoi ? De qui ? Il ne sait pas. Il traîne soit les savates de l'oisiveté, soit celles de la turbulence, et pourtant, sans jamais trouver satisfaction. Il souffre jusqu'à ce que l'appel emprunte un ton si ferme qu'il commence à tendre véritablement l'oreille. 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans. L'appel n'entrave jamais la liberté. L'évolution est patiente. Chacun porte en lui le facteur ignorance-connaissance, indépendamment des sentiers qu'il emprunte. Le mathématicien te dira que la réponse est dans les nombres. Le physicien, qu'elle repose sur un ensemble de phénomènes de la matière, associés au temps et à l'espace. Teilhard de Chardin dira qu'il ne voit aucune opposition entre la religion et la science et parlera dans ses recherches du Christ cosmique. La médecine te parlera des secrets du corps humain. La psychologie mettra l'accent sur les traits caractéristiques de la personnalité. Le religieux te parlera du retrait du monde et du don de sa vie à Dieu. L'alpiniste recherchera les sommets à escalader. Le parent n'aura de vie que pour ses enfants d'abord. Lequel de tout cela a choisi le meilleur chemin? À chacun son chemin, parsemé d'essais et d'erreurs, vers l'unique passage de l'ignorance vers la connaissance. Oui, chacun trouvera en son temps la voie qui conduit à la vie en éternelle expansion. Dès lors, il n'y aura plus mille chemins, mais une fusion totale et harmonieuse en l'amour créateur. Ne doute pas du chemin que tu as choisi s'il t'apporte la paix et la joie, et s'il t'éloigne de tout jugement sur le chemin des autres. Dis ce que tu penses sans dissocier et sans comparer. Tais tout ce qui peut créer l'accusation et la division. Acculé au mur de la densité, l'homme se verra contraint d'entrer par le choix de son esprit sur la voie du retour. Libre du poids de son ignorance, conscient de l'unité qui l'interpelle, délivré de la pensée de la mort, il sera redevenu un dans l'infini épanouissement de son pouvoir créateur. Il n'y aura plus ni nombre, ni temps, ni espace, ni corps, ni psyché, ni religion. Il y aura l'indescriptible amour en manifestation. Souviens-toi chaque jour, en vous regardant toi et ton frère, que si vous êtes ignorant, vous êtes loin d'être ignoré. Je ne marche plus à votre rencontre. Je vous sais déjà chez moi.
Un jour, une jeune fille de 7 ou 8 ans entra chez elle en criant. « Maman, j'ai vu le soleil. Je te le dis, maman, j'ai vu le soleil. Oh, c'est vrai, maman, je te le jure, j'ai vu le soleil. » « Arrête, lui dit la mère. Calme-toi, tout le monde voit le soleil. » « Tu ne comprends pas, maman. Je te le dis, je ne mens pas, j'ai vu le soleil. » « Va te calmer dans ta chambre, dit la mère excédée. » Réfugiée dans sa chambre, la petite s'étendit sur son lit, les mains croisées sur le cœur. Elle ne cessait de répéter tout bas, « Jamais, oh non, jamais, je n'oublierai le soleil. » Quand le père entra du travail, la mère lui raconta avec inquiétude la folie de la fillette et ils se hâtèrent de la conduire chez le médecin. Questionnée, l'enfant n'avait rien d'autre à dire que « j'ai vu le soleil ». Le diagnostic fut évident et la jeune fille fut reconduite en psychiatrie. Elle s'y réfugia dans un silence têtu. Comme à l'habitude, les journalistes s'emparèrent de la nouvelle et toute la population fut mise au courant. Un vieil homme sage décida, avec l'autorisation parentale, de rencontrer l'enfant. « J'ai su que tu avais vu le soleil, lui dit-il. Tu voudrais m'en parler ?»« Oh oui, monsieur, c'était tellement beau. Je jouais sur le bord de la plage, puis tout à coup, on eût dit que j'étais enveloppée d'une grande lumière dorée et chaude. J'étais si heureuse que la mer me semblait comme une flaque d'eau, le ciel comme un étroit ruban de soie bleue et l'autre soleil comme un petit point jaune. » Ma joie était si grande, oh si grande que je ne pouvais à peine la supporter, mais personne ne m'a cru. Alors je suis ici. Malgré ce qui m'entoure, je me nourris de mon secret. C'est tout. Quand la fillette aperçut une larme sur la joue de son interlocuteur, elle sut qu'elle n'était pas la seule à avoir vu le soleil. Ils ne se quittèrent plus, dit la légende.
Toi, un jour, tu l'as vu, le soleil? Sache-le définitivement, il n'est la propriété de personne en particulier. En l'esprit de chacun, il se terre en silence. Il n'a qu'un seul dessein, celui de se manifester ouvertement en cette énergie toute puissante que tu nommes le Christ. Trop longtemps, tu as confondu le Christ avec celui qui se prénommait Jésus. Ce dernier, un être humain comme toi, chercha son chemin vers la lumière. Conscient qu'il était le décideur, il consentit d'échanger toutes les illusions de ton monde pour suivre la divine intuition de l'Esprit Saint qui le guida vers la connaissance. Il est devenu Christ au terme de son expérience, comme tu le seras aux confins de la tienne. Aujourd'hui, cela peut te sembler un impossible leurre qui cherche à détourner ton attention du concret de tes jours. Sache pourtant qu'il se manifestera, tôt ou tard. Lorsque tu auras consenti, comme cet homme Jésus et la petite fille de la légende, à quitter ton cachot psychiatrique pour suivre la sagesse manifestée, tu seras à même de suivre les claires directives de l'Esprit-Saint qui, en toi, incube le soleil en gestation. Comprends-tu mieux pourquoi je te propose ce silence immobile et paisible? C'est là que germe la vérité non divisée. C'est là que meurt la culpabilité, la colère, le jugement, la haine, la peur. C'est là que tu vois tomber tous les masques qui te cachent la pure beauté de tes frères dont tu t'es cru séparé, alors qu'ils sont comme toi, des parties du grand Christ collectif. Comprends-tu que tu ne sacrifies rien en me donnant tes clés? Je suis la part de toi qui fréquente depuis toujours tous les Himalayas possibles et qui t'interpelle au quotidien. N'es-tu pas épuisé et suffisamment moulu par les faux semblants de l'ignorance pour te livrer enfin aux joies lumineuses du grand soleil? Je t'aime. Viens, libre, joyeuse en la fusion de tant d'amour.
Des pas nouveaux. Des traces juvéniles sur fond de neige blanche, des stigmates de feu qui brûlent l'illusion et préparent en silence la fission de demain, libérant l'énergie d'une race nouvelle, embrasant le cosmos d'ondes originelles. Ils seront là, les sages, reviendront les anciens. Ils prendront la parole qui délivre et instruit. Ils mouderont tous les masques, supprimeront la mort. Redonnant à la terre et ses droits et ses fruits, comme on remet la dette d'un forfait mal acquis. En partageant la joie, l'extase et l'euphorie, ils se rappelleront leurs pouvoirs infinis. Sorti de son énigme, libre de ses faux pas, puissant et créateur, l'homme nouveau sera.